France Culture.
L'heure de la trêve au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a validé hier un cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur demain matin. Près de 735 prisonniers palestiniens devraient être libérés. Nous vous dresserons le portrait de l'un des plus connus, l'acteur Zakaria Zoubaïdi. Nestlé visé par une nouvelle information judiciaire à Paris. Le groupe suisse est accusé d'avoir filtré illégalement des eaux contaminées présentées ensuite comme minérales et naturelles. Nous vous expliquerons pourquoi la procédure pourrait profiter aux géants, par ailleurs interrogé au Sénat en ce moment. Et enfin, la justice française croule sous le stock d'affaires à juger. Le procureur général auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Franck Rastoul, s'alarmait cette semaine des délais déraisonnables de traitement dans les affaires criminelles. Le narcotrafic inonde les tribunaux du sud-est de la France notamment. Il sera notre invité pour en parler dans une dizaine de minutes. L'heure de la trêve approche au Proche-Orient. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a été validé hier par le gouvernement israélien à 24 voix ministérielles contre 8. Il doit entrer en vigueur demain matin à 8h30 heure locale. Plus tard sera le début des échanges d'otages et de prisonniers. Les femmes, enfants et hommes de plus de 50 ans seront les premiers à être libérés des deux côtés par vagues successives. Dès demain, le Hamas devrait relâcher 3 femmes en l'échange de 30 prisonniers palestiniens. Israël a aussi publié ce matin la liste des détenus palestiniens libérables. Ils sont 735 en tout. Michel Paul dresse le portrait du plus connu d'entre eux, Zakaria Zoubaïdi, acteur et terroriste.
Zakaria Zoubaïdi a souvent fait la une des médias israéliens. Élevé dans le camp de réfugiés de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie, dans une maison qui abritait un théâtre pour enfants monté par des Israéliens pro-palestiniens, il est blessé aux jambes à 13 ans par un soldat israélien. Il enchaîne les séjours en prison pour jets de pierre et cocktails Molotov. Et c'est en prison qu'il apprend l'hébreu. Il devient ensuite artificier, il s'engage brièvement dans la police palestinienne avant de rejoindre les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah, dont il devient le chef à Jenin. Sa relation avec Tali Fahima, une militante israélienne qui s'installe chez lui pour lui servir de bouclier humain, fait les titres en Israël et aussi l'objet d'un film documentaire. Amnistié par Israël en 2005, il fait à nouveau de la prison, mais cette fois côté palestinien, pour tentative de meurtre du gouverneur de Jenin. En 2021, il s'évade par un tunnel creusé pendant des mois d'une prison de haute sécurité israélienne en compagnie de 5 co-détenus. Il est capturé quelques jours plus tard dans un relais routier. Son fils, Mohamed, lui, a été éliminé l'année dernière par l'armée israélienne lors d'affrontements à Jenin.
Les précisions de Michel Paul. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza annonçait par ailleurs ce matin qu'au moins 23 personnes avaient été tuées dans le territoire palestinien au cours des 24 dernières heures. Deux juges de la Cour suprême iranienne ont été assassinés ce samedi, annonce de l'agence officielle de l'autorité judiciaire. Ali Razini et Mohamed Moghiseh ont été abattus dans leur bureau de l'institution judiciaire par un assaillant qui s'est ensuite donné la mort. Il était inconnu des services de la Cour et ses motivations n'ont pas été éclaircies pour le moment. Les deux magistrats abattus occupaient un rang intermédiaire dans le clergé chiite. Une enquête est désormais ouverte. Les faits ont été qualifiés par les autorités de terroristes. Donald Trump retourne à la Maison-Blanche lundi pour sa cérémonie d'investiture. Il prêtera serment à midi et remplacera ensuite Joe Biden pour 4 ans dans le bureau ovale. Et parmi les projets de sa future équipe, il y a le très redouté DOGE, un nouveau département chargé de l'efficacité gouvernementale et confié à Elon Musk. L'homme le plus riche du monde promet de tailler dans les dépenses fédérales, ce qui fait peur dans beaucoup d'agences, notamment à Washington, la capitale, où travaillent quelques 300 000 fonctionnaires. Sébastien Paour a rencontré l'une de ses employés. Elle se fait appeler Lucie, mais veut rester anonyme.
Lucie est cadre supérieur depuis 3 ans au Pentagone. Elle décrit l'inquiétude parmi les quelques 10 000 personnes qu'elle supervise partout dans le monde pour le bureau du secrétaire à la Défense.
Ils ont l'impression qu'Elon Musk a les yeux rivés sur le Pentagone.
Which is ironic just because, like,
ce qui est ironique parce qu'on a indirectement financé beaucoup de ses entreprises.
We have accidentally financed so many of his companies, like
comme SpaceX.
SpaceX. People are very freaked out.
Les gens sont effrayés.
Not just at the Pentagon.
Pas seulement au Pentagone.
At the Department of Justice.
Au département de la justice aussi.
People are very afraid.
Ils ont très peur de perdre leur emploi.
To lose their job.
Trump avançait le chiffre de 100 000 postes gouvernementaux menacés pendant la campagne présidentielle. Alors certains ont pris les devants ces dernières semaines au sein des équipes de Lucie.
Some people are retiring early.
Certaines personnes prennent une retraite anticipée.
I have a person who put it in his retirement for December 31st.
J'ai une personne là qui a programmé sa retraite pour le 31 décembre.
And it's created just kind of a little bit of mass panic.
Ça crée une sorte de panique générale.
Like everyone's on LinkedIn.
Tout le monde est sur LinkedIn.
Everybody's updating their profile.
Tout le monde met à jour son profil.
So it's been very nerve-inducing and nerve-wracking for people.
Ça met vraiment les nerfs à rude épreuve.
Some people have actually requested.
Certains ont même demandé à quitter le bureau de Washington
to move from a DC office
pour un bureau plus éloigné
to a further out office
en Floride ou dans le Colorado
to Florida or something like that or Colorado
parce qu'ils pensent qu'ils vont s'en prendre aux emplois à Washington
because they think oh they're attacking DC jobs
mais que dans le reste du pays ils seront plus en sécurité
but in the rest of the country will be safer.
Elon Musk promet qu'il peut réduire la dépense publique fédérale de 2000 milliards de dollars ce qui représenterait une baisse de 30% par rapport au budget de l'an dernier.
Sébastien Paour à Washington pour France Culture. À noter également concernant le très politique milliardaire Elon Musk, l'enquête ouverte hier par les autorités américaines à propos de Starship. La méga-fusée est clouée au sol, le temps de faire la lumière sur l'échec d'un essai réalisé jeudi. Son second étage avait explosé de façon inattendue au-dessus des Caraïbes, obligeant le régulateur à détourner des vols aériens. L'archipel des Turcs et Caïques, pourtant situé à 2500 km de la zone de lancement au Texas, a aussi annoncé avoir reçu des débris. Aucun blessé n'est pourtant à déplorer pour l'instant. Dans l'actualité en France, l'affaire Nestlé n'en finit plus de rebondir. La multinationale suisse est accusée d'avoir filtré de façon illégale des eaux de ses usines du Gard et des Vosges, au charbon, aux UV ou encore à la microfiltration, dans le but de continuer à vendre des eaux contaminées par des bactéries sous l'appellation eau minérale naturelle. Nestlé avait mis fin aux enquêtes judiciaires en septembre en payant 2 millions d'euros d'amende. Marie Dupin, vous nous expliquez ce matin qu'une information judiciaire a été ouverte en décembre par le tribunal judiciaire de Paris et que cette nouvelle procédure pourrait profiter à Nestlé sous le feu d'une enquête lancée parallèlement par le Sénat, dont les auditions viennent de démarrer.
Oui, d'après nos informations, le doyen des juges d'instruction du tribunal de Paris a ouvert fin décembre une information judiciaire suite au dépôt d'une plainte par l'ONG Foodwatch. Ces poursuites judiciaires pourraient pourtant, paradoxalement, constituer un effet d'aubaine pour la multinationale. En effet, depuis mi-décembre, les sénateurs ont lancé une commission d'enquête et ils doivent, dans ce cadre, auditionner sous serment les responsables de Nestlé, audition publique et filmée. Or, selon nos informations, Nestlé tente de bloquer cette enquête des sénateurs, invoquant dans des courriers une ordonnance qui prévoit qu'il ne peut y avoir de commission d'enquête si des poursuites judiciaires sont en cours. Le rapporteur de cette commission, le socialiste Alexandre Ouizi, affirme qu'il ne se laissera pas intimider. Nestlé affirme, elle, vouloir contribuer de manière constructive à la commission des sénateurs dans le respect de ses droits.
Marie Dupin, la justice française est-elle menacée de submersion ? C'était le message passé lundi pour la rentrée solennelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la deuxième plus importante de France, par le procureur général. 391 dossiers attendent d'être jugés par les cours d'assises et les cours criminelles départementales des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Var, soit 10% du stock national. Le narco-banditisme pèse très lourd dans cet encombrement. Les magistrats multiplient les décisions de maintien exceptionnel en détention, le temps de pouvoir rendre justice, et pour les affaires où les accusés sont encore libres, qui ne sont pas prioritaires, elles sont d'autant plus retardées et peuvent mettre jusqu'à 5 ans à être jugées. Des délais déraisonnables face auxquels le ministère ne parvient pas à agir. Tout juste l'ancien garde des Sceaux Didier Migaud avait-il lancé une mission à l'automne pour établir les raisons de cette embolie judiciaire ? On en parle avec l'auteur de ce SOS judiciaire, le procureur général auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Franck Rastoul, notre invité. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Pourriez-vous nous expliquer d'abord ce qui vous a amené à lancer ce cri d'appel en début de semaine ?
Écoutez, je crois que bon, la formule est parlante. Un SOS, c'est la volonté de ne pas couler. Donc, ce n'est pas un appel, si vous voulez, négatif. C'est un appel de détresse, mais qui est aussi un appel d'espoir. C'est d'objectiver une situation qu'on connaît de longue date, c'est-à-dire des délais qui sont trop longs, qui ne sont pas satisfaisants. Mais on est au-delà de ça, puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes dans une situation, nous sommes quasiment sur le point de ne plus pouvoir juger les dossiers détenus. Alors que vous l'avez résumé, nous avons déjà fait payer le prix fort, j'allais dire, au dossier avec des accusés libres qu'on audience de moins en moins, atteignant des délais de 75 mois, ce qui confine au déni de justice. Et malgré cela, demain pour la cour d'appel d'Aix, ça sera 2026, avec les 50 règlements de compte qui ont été commis en 2023 à Marseille, qu'il faudra, en gros, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, juger. Et donc, c'est un peu, si vous voulez, pour prendre une image, comme la bande passante sur Internet, donc ça n'est plus possible. Et donc, il faut effectivement, face à cette situation, le dire et trouver d'ici là les moyens d'y remédier. Ça passe évidemment par différentes solutions. Il faut une révision des organisations, une révision des textes, une révision des moyens aussi. Si vous voulez, la justice, c'est aussi une question de moyens, ça n'est pas que cela. Et donc, le budget, vous le savez, est de moins de 2%. Donc, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, on a la justice qu'on veut bien se payer, au sens bien sûr positif de ce terme. Donc, je crois que le temps du sursaut est revenu parce que tout accusé, et les victimes également dans ces dossiers, que les accusés soient libres ou que les accusés soient détenus, ont le droit, bien sûr, d'être jugés dans un délai raisonnable. Or, aujourd'hui, nous n'y arrivons plus, voilà, donc c'est un signal, un petit peu de détresse, mais pour que, justement, toutes les réactions possibles sur les trois axes que je viens d'expliquer puissent être prises pour qu'on redresse la barre, si je reste dans la métaphore maritime.
En parlant des moyens, justement, les cours criminelles départementales, qui sont, je le rappelle, composées de 5 magistrats et qui ne comportent pas de jurés populaires, avaient été lancées en 2023, justement pour soulager les cours d'assises. Les estimez-vous efficaces, ces cours départementales ?
Écoutez, le bilan, en tout cas pour un certain nombre de cours, dont les plus grosses, vous l'avez dit, Paris, la première cour de France, Aix-en-Provence qui est la seconde, et là je crois qu'il y a une dynamique négative d'échelle, nous ne parvenons pas effectivement à retirer de bénéfices de ce nouveau dispositif pour différentes raisons. Je ne veux pas être trop long et ennuyer vos auditeurs, mais il y a des règles de procédure. Par exemple, il y a un délai de 6 mois pour juger les dossiers détenus des cours criminelles. Pour des cours comme Paris ou Aix-en-Provence, c'est totalement irréaliste. Et donc, nous n'arrivons plus à tenir ce délai. Donc, nous saisissons la chambre de l'instruction pour prolonger les délais de détention. Et on a un phénomène, si vous voulez, d'embolie en quelque sorte globale. Donc, je crois que c'est important de le dire. Vous savez, la justice, ça n'est pas qu'une question de gestion de flux. Mais c'est aussi une question de gestion de flux. Et quand on n'arrive plus à gérer les flux, ben je pense qu'il faut savoir s'adapter. Tout le monde comprendra qu'on a aujourd'hui un poids de la délinquance et notamment de la criminalité organisée à Marseille, bien sûr, dont on parle beaucoup, mais encore à Toulon, à Nice, enfin dans un ressort qui est extrêmement chargé, et qu'il faut aujourd'hui s'adapter. Et moi, ça fait un certain nombre d'années, notamment, que sur la criminalité organisée, je suis favorable à ce qu'on ait une cour d'assises spécialisée avec uniquement des magistrats professionnels pour juger du spectre haut, comme on le qualifie, de la délinquance, parce que je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, on ne peut plus exposer des jurys populaires à des affaires où le risque de menace, hein, il ne faut pas se leurrer, et puis le risque de corruption également est majeur. Et vous le savez, on a aujourd'hui une dérive extrêmement inquiétante, où nous avons toute une série de personnels qui peuvent être pénitentiaires, mais qui peuvent être également judiciaires, qui font l'objet aujourd'hui de menaces notamment. Et donc il faut évidemment réagir face à cette situation. Et puis, sans être trop long, ça c'est le volet, j'allais dire, criminalité organisée, qui vient alourdir considérablement nos stocks. Mais il y a également, aujourd'hui, au niveau des cours criminels, un poids considérable des affaires de viol. Alors, il faut se féliciter d'une certaine manière que la justice, effectivement, oui, puisse aujourd'hui sanctionner ces faits. Mais je rappelle juste un pourcentage. 90% aujourd'hui, dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, des dossiers des cours criminelles sont des dossiers de viol. Et donc, vous voyez bien que si on n'arrive pas à juger ces dossiers dans un délai satisfaisant, les victimes ne comprennent pas. Donc, il est temps, encore une fois, de faire un point sur l'état du système, sur son embolie, et puis évidemment, de corriger cette situation.
Merci beaucoup Franck Rastoul pour vos précisions. Je rappelle que vous êtes procureur général auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Midi 43 sur France Culture, le temps d'un dernier détour par l'Allemagne et plus précisément par Chemnitz. Vous ne la connaissez peut-être pas et pourtant vous allez entendre parler de cette ville de l'Est du pays puisqu'elle est la nouvelle capitale européenne de la culture 2025. L'autre est Nova Gorica en Slovénie. Le coup d'envoi des festivités est donné aujourd'hui. La 29e ville d'Allemagne dans la région de Saxe a été désignée un peu à la surprise générale. Elle était bien plus connue jusqu'à présent pour les débordements néo-nazis que pour son patrimoine culturel. À Berlin, Sébastien Baer.
Jusqu'à présent, Chemnitz jouit d'une réputation peu flatteuse, connue pour son buste de Karl Marx, sa desserte ferroviaire catastrophique, ses artères longues et grises et sa population, la plus âgée d'Allemagne. Quand la ville fait la une de la presse en 2018, c'est à cause de la chasse aux migrants menée par des néo-nazis, des images qui ont choqué l'Allemagne et le monde entier. Pourtant, Chemnitz, c'était autrefois une ville industrielle, florissante, surnommée la Manchester de la Saxe. On y fabriquait du textile, des machines à vapeur, des locomotives, mais après la chute du mur de Berlin en 1989, Chemnitz a décliné, marqué par les faillites d'usines, le chômage massif et l'exode d'une partie de sa population qui est passée en 35 ans de 300 000 à 250 000 habitants. De ce passé pas très reluisant, Chemnitz a voulu faire une force. Au travers du millier de manifestations prévues cette année, les organisateurs souhaitent présenter la face cachée de l'ancienne Karl-Marx-Stadt. Leur slogan « Découvrir l'invisible », les friches, les bâtiments industriels, les arrières-cours où les habitants garaient leurs trabants ont été réquisitionnés. Des conférences sont aussi prévues pour alerter sur les dangers des extrêmes. 2 millions de visiteurs sont attendus tout au long de cette année. Le maire veut renvoyer l'image d'une ville attractive bien au-delà de la région de Saxe. 20% des Allemands de l'Ouest ne sont jamais allés à l'Est. Chemnitz veut leur prouver qu'ils ont tort.
Un mot du temps pour terminer. Nuageux sur une moitié nord-ouest, beaucoup plus dégagé dans le sud-est. Les températures iront cet après-midi de 0 degré à Strasbourg à 17 degrés à Nice. À noter la vigilance orange en Corse pour des pluies et des inondations.